Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Anastasie Tudiès chez Chérubin, Gabi Dorcil. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du mardi 27 décembre 2016. À la une ce soir.
RDC toujours dans l'attente de la signature d'un accord entre la mouvance et le rassemblement de l'opposition.
Au Nigeria, l'armée reprend le dernier bastion de Boko Haram dans la forêt de Sambisa.
Une nouvelle étude révèle qu'environ la moitié des jeunes Tunisiens souhaitent quitter leur pays. Pourquoi ?
Le Premier ministre japonais Shinzo Abe à Pearl Harbor, 75 ans après l'attaque qui a traumatisé l'Amérique.
Crash en Russie, une boîte noire retrouvée, la recherche des corps se poursuit.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Au Nigeria, le chef d'état-major de l'armée de terre, le lieutenant-général Tukur Buratai, a révélé que la forêt de Sambisa, récemment reprise aux insurgés de Boko Haram, servira désormais de centre d'entraînement à l'armée. Les précisions tout de suite de John Lyndon.
Cette annonce intervient après celle samedi dernier du président nigérian. Muhammadu Buhari avait en effet déclaré que l'armée avait écrasé Boko Haram dans la forêt de Sambisa, l'un des derniers bastions du groupe islamiste dans le nord-est du pays. La région servira donc désormais de centre d'entraînement à l'armée et aussi de lieu d'essai des équipements militaires avant leur mise en opération. Une série d'activités y sont déjà programmées. Le général Tukur Buratai a ordonné que le championnat des armes légères de l'armée nigériane pour 2017 se tienne dans cette forêt. La reconquête de l'armée nigériane de la forêt Sambisa a suscité des réactions dans le pays. Le général Ibrahim Badamasi Babangida, ancien président militaire, a par exemple salué ce succès. Des militaires nigériens affirmant que cela confirme la confiance qu'il a au fait que le président Muhammadu Buhari écrasera Boko Haram. Secte salafiste extrémiste à l'origine, Boko Haram s'est mué en mouvement djihadiste à la mort de son fondateur Mohamed Youssouf en 2009. Les violences du mouvement et leur répression ont fait plus de 20 000 morts et 2,6 millions de déplacés dans le nord-est du Nigeria.
Merci Arzuma Compaoré. L'Assemblée provinciale du Haut-Katanga dans le sud-est de la République démocratique du Congo a voté ce mardi la levée de l'immunité de Gabriel Kyungu Wakumwanza, dirigeant d'un parti d'opposition accusé d'outrage envers le président Joseph Kabila. C'est ce que rapporte l'AFP citant des sources concordantes. Gabriel Kyungu Wakumwanza est proche de l'opposant en exil Moïse Katumbi et coordinateur régional dans le sud-est du Rassemblement, la plateforme d'opposition dirigée par Étienne Tshisekedi.
En Somalie, prestation de serment des nouveaux parlementaires après des élections échelonnées sur plus de 2 mois. À une date ultérieure, le Parlement choisira un président par vote secret. Quelques 14 000 électeurs délégués sur les 12 millions de Somaliens ont voté pour des candidats généralement choisis à l'avance, par consensus et représentant chaque clan ou sous-clan de la Somalie.
Près de 55 000 personnes ont été poursuivies en justice en Algérie pour des affaires de terrorisme depuis le début des années 90, a indiqué le ministère de la Justice, selon l'AFP. Il s'agit du premier chiffre global communiqué par les autorités concernant les poursuites pour terrorisme depuis la fin de la décennie dite « noire » au début des années 2000.
Un chiffre qui fait réfléchir maintenant. Près d'un jeune Tunisien sur deux, issu de quartiers populaires, pense à quitter son pays. Et un sur trois se dit prêt à émigrer clandestinement si la situation l'impose, selon l'étude d'une ONG publiée aujourd'hui. L'étude réalisée par le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, le FTDES, dans 6 quartiers populaires du pays, rapporte que 45,2% des sondés sont actuellement dans un processus de réflexion sur la migration. Le FTDES note que 22 000 personnes sont mortes entre 1999 et 2014 en tentant de traverser la Méditerranée, selon l'Organisation internationale pour la migration.
Le gouvernement égyptien durcit le ton par rapport aux médias. Le président Abdel Fattah al-Sissi a promulgué une loi visant à mettre en place un conseil formé de membres approuvés par lui pour superviser les organes de presse, a-t-on appris de sources officielles. La loi autorise le conseil à enquêter sur le financement des médias et à verbaliser ou révoquer ce qui serait considéré comme contrevenant aux exigences de sécurité nationale. Le CPJ, Comité pour la protection des journalistes, a accusé le Caire d'imposer des restrictions au quatrième pouvoir.
Retour en Afrique de l'Ouest à présent, Gabi, en Gambie, où Yahya Jammeh ne montre aucun signe de vouloir céder le pouvoir, ce qui n'a pas empêché le président élu Adama Barrow de préparer sa prise de fonction, prévue pour le 19 janvier prochain. M. Barrot a annoncé un plan de développement économique et appelé une nouvelle fois le président sortant à quitter le pouvoir, Onaira Gahima.
À moins d'un mois de la date prévue par la Constitution gambienne pour l'investiture du nouveau président, Adama Barrow multiplie les sorties dans les médias comme pour montrer qu'il est le président élu et qu'il entend bien assumer ses fonctions à compter du 19 janvier. Dans une déclaration publique, il a annoncé un plan de développement 2017-2020 et promet que son gouvernement sera immédiatement opérationnel. Dans une autre déclaration, il a aussi demandé à Yajame de partir, et je cite, « comme l'a fait l'ancien colonisateur britannique en 1965 ». Mais rien n'indique que Yahya Jammeh lui rendra la tâche facile. Son parti a introduit un recours devant la Cour suprême, un recours qui sera d'ailleurs examiné le 10 janvier prochain. Mais pour le barreau de Banjul, cette cour n'a pas de légitimité pour statuer sur les élections puisqu'elle n'était pas composée. Elle n'était composée qu'un d'un seul juge venu du Nigeria. Selon des informations données par la presse, Yahya Jammeh a nommé de nouveaux juges la semaine dernière pour remplacer les membres manquants. Les chefs de l'État de la CEDEAO ont de leur côté promis de se rendre à Banjul pour assister à l'investiture d'Adama Barrow le 19 janvier. Ils continuent aussi de brandir la menace d'une intervention militaire en cas d'échec de leur médiation.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, moment historique aujourd'hui à Pearl Harbor, dans le Pacifique. Pour la première fois, un chef de gouvernement japonais visite cet endroit emblématique où l'armée nippone a tué 2400 soldats américains dans une attaque surprise en 1941. Le premier ministre japonais Shinzo Abe se rend à Pearl Harbor en compagnie du président Barack Obama, le premier dirigeant américain à se rendre à Hiroshima, où une bombe nucléaire des États-Unis a fait 140 000 morts en 1945. « Nous ne devons jamais répéter les dévastations de la guerre », avait déclaré Shinzo Abe avant de quitter le Japon.
L'État d'Israël a affirmé aujourd'hui qu'il réduisait ses relations avec les pays ayant voté à l'ONU une résolution contre la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens occupés. Dili Dico.
Le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, Emmanuel Nachon, a fait savoir ce matin qu'Israël avait temporairement réduit les visites et les travaux avec les ambassades des pays concernés. Il a cependant réfuté l'information selon laquelle les relations avec les pays avaient été complètement suspendues. En représailles au texte voté vendredi au Conseil de sécurité, Israël a rappelé ses ambassadeurs en Nouvelle-Zélande et au Sénégal. De même, il a annulé son programme d'aide à l'Angola et au Sénégal. La résolution exhorte Israël à cesser immédiatement et complètement toute activité de colonisation en territoire palestinien occupé, dont Jérusalem-Est, et affirme que les colonies n'ont pas de valeur juridique. Le vote de la résolution permis par l'abstention des États-Unis a suscité de violentes réactions dans la classe politique israélienne. Benjamin Netanyahou a accusé l'administration américaine d'avoir fait un coup anti-israélien honteux aux Nations Unies. Pour la première fois depuis 1979, les États-Unis n'ont pas mis leur veto à une résolution hostile à l'État hébreu.
Et semble-t-il, le vote du Conseil de sécurité ne va pas affecter, dans l'immédiat tout au moins, les projets de construction sur les territoires occupés. Un comité de planification doit discuter demain de la délivrance d'un permis de construire pour 618 logements à Jérusalem-Est, partie palestinienne de la ville sainte occupée et annexée par Israël. Le maire adjoint de Jérusalem, Meir Toryeman, qui préside ce comité, a indiqué à l'AFP que le vote intervenu vendredi à l'ONU ne remettait nullement en question cette réunion prévue de longue date.
Une opération est en cours pour localiser la journaliste irakienne Afra Shawki Al-Kaissi, enlevée dans son domicile près de Bagdad. Le rapt a eu lieu hier, peu après la publication d'un article où elle a critiqué le ministère irakien de l'Intérieur. Selon une organisation locale engagée dans la défense des journalistes, 8 hommes en armes, se disant membres des forces de sécurité, ont fait irruption chez la journaliste, ont battu son beau-frère, détenu son enfant adolescent avant de la kidnapper.
Des combattants du groupe État islamique ont exécuté sommairement 13 habitants de deux villages du nord de l'Irak, dont certains s'étaient soulevés contre eux aux premières heures de l'offensive de l'armée irakienne pour reprendre Mossoul. C'est ce qu'a annoncé Human Rights Watch aujourd'hui. Ces exécutions qualifiées de crimes de guerre par l'organisation ont eu lieu le 17 octobre, jour même du début de la vaste opération militaire visant à reprendre la deuxième ville d'Irak, dernier bastion de Daesh dans ce pays.
Et puis les autorités russes ont annoncé la découverte de l'une des deux boîtes noires de l'avion qui s'est abîmé en mer dimanche avec 92 personnes à bord. Cet enregistreur de vol a été récupéré à 17 mètres de profondeur, près de Sotchi, d'où l'avion avait décollé en direction de la Syrie. La boîte noire a été transportée à Moscou cet après-midi pour être déchiffrée, selon le ministère russe de la Défense. La recherche des corps se poursuit. Moscou semble écarter la thèse d'un attentat.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco. Aujourd'hui, Arzuma Compaoré.
2010 milliards de francs CFA, c'est le budget général prévisionnel du Bénin pour 2017. 808 milliards de ces fonds seront consacrés à l'investissement public. C'est une augmentation considérable par rapport à l'exercice 2016, a souligné Abdoulaye Biotchane, ministre du Plan et du Développement. Le budget des secteurs sociaux, lui, passera de 78 milliards de francs CFA en 2016 à 265 milliards en 2017. Au Cameroun, la dette de la Compagnie nationale de transport aérien Camerco, estimée à 35 milliards de francs CFA, sera auditée. D'après le site cameruninfo.net, qui cite des sources internes à l'entreprise, Ernest Dikoum, le nouveau directeur général de Camerco, veut prendre toutes les précautions nécessaires pour faire toute la lumière sur ce sujet. Lourdement endetté depuis la création, en 2011, Camerco a adopté le plan de restructuration proposé par le cabinet américain Boeing Consulting, estimé à 100 milliards de francs CFA. L'Égypte vise une croissance économique de 5% pour l'année fiscale 2017-2018. C'est ce qu'a annoncé le ministère des Finances au moment où le gouvernement tente de relancer l'économie, menacée par l'instabilité politique et sécuritaire. Pour rebondir, le pays a obtenu en novembre un prêt de 12 milliards de dollars du FMI.
Nous passons tout de suite à la page sport, présentée ce soir par Eric Manirakiza. Salut Eric.
Salut Gabi.
Parlons de la CAN 2017, le Gabon a publié la liste des joueurs devant disputer la compétition.
Le sélectionneur José Anthony Camacho a retenu une liste de 23 joueurs dont la star du Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, et le milieu de la Juventus Turin, Mario Lemina. Le Gabon est le pays hôte Gabi et disputera le match d'ouverture contre la Guinée-Bissau à Libreville le 14 janvier. La finale se jouera le 5 février, date de la clôture de la compétition.
Et en championnat d'Angleterre, Eric ?
Privé de Boxing Day, Liverpool, troisième du championnat à 9 points de Chelsea, accueille le redoutable et imprévisible Stoke qui occupe la 12e place. Les Reds ont l'occasion de reprendre la 2e place à Manchester City qui compte 2 points d'avance après sa victoire à Hull hier.
On a beaucoup parlé de Ronaldo, Ronaldinho, Romario et tant d'autres. Il paraît que le Brésil a une nouvelle étoile montante dans le foot.
Disons Gabi, le nouveau prodige du foot brésilien. Il n'est pas né le jour de Noël, mais il s'appelle Gabriel Fernando de Jesus, qui ne cesse de séduire par l'explosivité, la rapidité, la finesse technique. Très adroit devant le but, cet ailier dribbleur a enfin mené son club de Palmeiras jusqu'à un premier sacre en championnat. En 22 ans d'existence, Gabi, terminant meilleur joueur de la compétition. Il a inscrit 5 buts en 6 matchs de qualification pour le Mondial 2018. L'entraîneur Pep Guardiola a fait des pieds et des mains pour l'attirer en Angleterre. À 19 ans, Jesus doit rejoindre début janvier les Citizens de Manchester City contre une indemnité de 32 millions d'euros. Pas mal, Gabi. Et l'autre pépite brésilienne, Neymar, a traversé l'Atlantique à 21 ans en quittant le FC Santos et le Brésil pour le championnat espagnol et Barcelone. Et toi, on t'a gardé pour 35 millions, n'est-ce pas ?
Un nom à ne pas oublier, Gabriel Fernando de Jesus. NBA, défaite des Cavaliers sans LeBron James devant Détroit.
C'était hier, Gabi, les Détroit Pistons ont profité de l'absence de LeBron James dans les rangs des Cavaliers pour faire tomber Cleveland de 106 à 90. La veille, les champions en titre avaient pourtant décroché les rétentes victoires contre Golden State, 109 à 108. Et les Cavaliers ont perdu les trois matchs où LeBron James n'a pas joué depuis le début de la saison. Une ressource importante pour l'équipe Gabi.
Vous savez ce qu'on dit de nous, Eric ? Beaucoup de valeur à bas prix. Merci.
Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
On est ravis d'être en votre compagnie, Anastasie Tudiech et Chérubin Gabi Dorsil. Place maintenant au dossier du jour. Alors, on commence où ce soir?
On commence à Kinshasa, en RDC, Gabi. En RDC, où les populations attendent toujours la signature d'un accord entre le pouvoir et l'opposition dans le cadre du dialogue parrainé par l'Église catholique. Cette cérémonie pourrait intervenir jeudi. Par ailleurs, à Goma, 18 militants de la Lucha ont été libérés aujourd'hui. Pour les derniers détails, Abdourahmane Dia a joint notre correspondant Charlie Kasereka.
À Goma, plus précisément, l'actualité reste dominée par la libération des 18 militants de la Lucha. Après 6 jours de leur arrestation, donc depuis le 21 décembre dernier, ici à Goma, alors qu'ils manifestaient bien sûr devant les bureaux du gouverneur et réclamant la démission du président Joseph Kabila. Ils disent qu'ils ont bénéficié d'une libération provisoire, bien sûr en attendant ce que la justice pas encore l'air de dire.
Du côté de Kinshasa, quelles sont les dernières informations dont vous disposez en ce qui concerne le dialogue politique?
En fait, à Kinshasa, c'est toujours l'attente de la signature de l'accord faire par les parties prenantes à ce dialogue. Il s'agit de la majorité présidentielle qui est aujourd'hui encore au pouvoir et certains délégués qui est une plateforme qui regroupe la majorité des partis de l'opposition. Le dialogue dit de la dernière chance avait été convoqué par les évêques de l'Église catholique pour bien sûr essayer de décrypter la situation politique ici au pays. Et à principe, c'était jeudi dans la soirée ou soit à l'attente dans la matinée soit de vendredi que la signature devait être approuvée par ou apposée par toutes les deux parties prenantes.
Et les populations, comment est-ce qu'elles réagissent? Elles sont optimistes, ces populations que vous avez rencontrées?
En fait, ici à Goma, tout d'abord, les personnes que j'ai essayé de parler avec dans la soirée, aujourd'hui, mardi, et les opinions sont divergentes. Et certaines restent optimistes, en croyant bien sûr que la signature de l'accord va sauver la situation actuelle que traverse le pays. Et d'autres, qui semblent être du côté ni de l'opposition ni de la majorité, pensent que c'est un accord de plus par rapport à tous les accords que la RDC a déjà signés. Et il reste réservé, voir tout d'abord est-ce qu'il y aura signature. Mais il reste toujours partagé en disant pourquoi les pouvoirs en place n'avaient pas organisé les élections pour qu'aujourd'hui tout ce qui se raconte, tout ce qui s'organise comme dialogue soit aujourd'hui comme une voie de sortie.
C'était Charlie Kasereka, notre correspondant à Goma.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Le Sénégal est l'un des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU ayant voté pour la résolution 2334 condamnant la poursuite de la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens. Et donc Dakar n'a pas été épargné par la colère de l'État hébreu qui a rappelé son ambassadeur et annoncé la suspension de son aide à ce pays ouest-africain. Aminata Touré, l'ancienne Premier ministre et actuelle envoyée spéciale du président Macky Sall, dénonce la réaction d'Israël. Abdourahmane Dia, la jointe dans la capitale sénégalaise.
Une résolution du Conseil de sécurité s'applique à tous les pays concernés, sans exception, en tout cas tous les pays où règne l'état de droit. Et Israël n'est pas en dessus du droit international. Alors, pour ce qui concerne la suspension de son aide au Sénégal, je voudrais rappeler que le Sénégal, quand même, n'a pas attendu Israël pour justement développer son plan pour l'émergence du pays, plan Sénégal émergent. Et c'est également l'occasion de dire que l'Afrique, justement, l'Afrique nouvelle qui émerge, est une Afrique qui compte sur ses propres forces. Et ça, c'est un message fort à donner au reste du monde, et Israël compris. C'est également une opportunité, à mon avis, ratée pour l'État hébreu, puisque le Sénégal est connu pour être un pays modéré, pays musulman modéré, qui pourrait faciliter le dialogue des religions, ayant entretenu des relations amicales avec l'État hébreu. S'ils ne l'ont pas compris, c'est également dans leur intérêt. C'est dommage, mais en tout cas, on salue tous cette position qui entre en droite ligne avec le respect du droit international, encore une fois, auquel Israël doit se contraindre.
Est-ce que le Sénégal s'attendait à cette réaction d'Israël qui a rappelé son ambassadeur et annoncé la suspension de son aide? Est-ce que vous trouvez cette réaction exagérée?
Oui, bon, chaque pays souverainement prend ses décisions diplomatiques. Je trouve ça un peu désolant que on pense que par l'argent on puisse acheter la position de principe d'un pays comme le Sénégal. L'indépendance de l'Afrique, du Sénégal compris, la souveraineté, elle n'est pas suspendue à l'aide israélienne ou à une quelconque aide. C'est un message fort d'ailleurs pour les jeunes Africains, qu'ils sachent que justement, il faut qu'on se retrousse les manches ici sur le continent, qu'on développe nous-mêmes le continent en solidarité avec les pays qui veulent le faire, mais que c'est à nous justement de prendre en charge notre destin pour que ce type de situation ne compte pas.
Aminata Touré, actuel envoyé spécial du président Macky Sall.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Le premier ministre tunisien Youssef Chahed a appelé lundi à l'examen en urgence par le Parlement d'un projet de loi pénalisant le racisme. Cette décision est intervenue au lendemain d'une manifestation d'étudiants africains dénonçant de multiples cas d'agression. Timothée Donangmaï a joint à Tunis la djiboutienne Zamzam Mohamed, chargée des relations extérieures de l'Association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie. On l'écoute.
Récemment, il y a eu un acte d'agression sur trois étudiants de nationalité congolaise. Les étudiants se sont fait poignarder pour l'un et égorger pour deux autres. Il y a aussi eu une autre agression en plein marché sur une fille, une étudiante aussi. Nous sommes en fait scandalisés que dans la même journée, il y a eu quatre agressions et qu'un individu qui apparemment est un récidiviste. Il a déjà commis le même acte il y a quelques semaines sur une autre étudiante. Et nous sommes choqués que les autorités tunisiennes laissent un tel individu se balader sur les routes sans agir, en fait. Nous sommes scandalisés. Et c'est en fait la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, dans le sens où nous autres étudiants, nous sommes victimes d'abus, que ce soit de la part de la législation, que ce soit de la part des propriétaires d'appartements, que ce soit de la part des policiers. Nous ne savons pas en fait ce qui se passe.
Quels sont les autres problèmes que vous rencontrez dans la vie de tous les jours?
Le plus gros problème, c'est le problème lié aux conditions de séjour des étudiants et stagiaires en Tunisie. Nous faisons face à des abus, notamment par rapport au dépôt des cartes de séjour. Les étudiants souffrent dans le sens où on nous demande de payer des sommes extravagantes par rapport aux cartes de séjour. Une carte de séjour qui, pour le dépôt, demandait 15 dinars il y a tout au plus 3 années et qui, aujourd'hui, on nous demande de payer 300 dinars. On ne comprend pas pourquoi.
Alors, le Premier ministre tunisien Youssef Chahed a appelé à l'examen en urgence par le Parlement d'un projet de loi pénalisant le racisme en Tunisie. Qu'est-ce que cela changera selon vous?
Nous espérons que ce projet de loi soit d'abord adopté parce que c'est un projet de loi qui est en suspens depuis, ça fait à présent 2 ans. Et nous demandons à ce que ce soit reconduit, que ce soit adopté et que ce soit passé par le Parlement. Nous nous attendons à ce que ce soit appliqué et que ce soit que ça criminalise et que ça punisse les gens qui font preuve de tel acte de terrorisme. C'est du terrorisme.
La djiboutienne Zamzam Mohamed, chargée des relations extérieures de l'Association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Et dans le cadre de notre rétrospective 2016, ce soir, le Burkina Faso, où l'année qui s'achève a été marquée entre autres par la lutte contre le terrorisme. De Ouagadougou, notre correspondant Zoumana Wonogo.
C'est dès les premiers jours de l'année passée que le Burkina Faso a connu son premier ministre et son gouvernement, qui, à peine installé, a fait son baptême du feu, au propre comme au figuré. C'est le 15 janvier que les terroristes ont décidé de frapper le Burkina Faso. Revivons les faits avec le président du Faso, Roch Marc-Christian Kabouré.
D'abord, dans l'après-midi, dans le secteur d'Ilabao, dans la province de Loudala, un convoi officiel de la gendarmerie nationale a été attaqué, faisant 2 morts et 2 blessés. Ensuite, dans la soirée à Ouagadougou, à l'hôtel Splendide, à l'hôtel Yibi, au café Cappuccino, une attaque armée suivie d'une prise d'otage a occasionné, selon un bilan provisoire, 28 morts, une 50aine de blessés civils. Toujours dans la nuit du 15 au 16 janvier, le docteur Kenneth Arthur Elliott et son épouse Jocelyne, de nationalité australienne, dans cette localité ont été enlevés.
Il a fallu donc se remobiliser pour ne pas céder au découragement et la libération de l'otage Jocelyne Elliott. Juste un mois après les attaques, y a joué un grand rôle. Réécoutons Madame Jocelyne Elliott.
Je suis très heureuse de trouver que je suis ici au milieu de la famille de Burkina. Et je veux remercier la population de Burkina aussi pour leur soutien pendant mon absence.
Comme pour saluer cette libération, le Burkina Faso a organisé la SNC, Semaine nationale de la culture, puis ont suivi les élections municipales. C'est dans ces entrefaites que le Front social s'est mis à bouillonner. Les médias d'État, les impôts et surtout la grève sans service minimum des agents de la santé. Or, juste avant, le ministre de la Santé déclarait.
Le ministère de la Santé a été alerté par une augmentation assez sensible donc du nombre de personnes qui présentaient des syndromes qui étaient similaires à ce qui ferait penser donc à la dengue. Malheureusement, le virus circule au Burkina Faso.
Tout cela n'a pas empêché l'organisation du CIAO, Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Revivons l'événement avec Draman Tou, le commissaire général du CIAO.
L'édition 2016 du CIAO rassemble plus de 3000 exposants, 250 acheteurs professionnels avec la participation de 25 pays.
Attendu depuis très longtemps, les procès sur les grands dossiers ont commencé le 20 décembre, mais pas celui qui est le plus attendu, à savoir le push manqué du général Gilbert Diendéré et de Djibril Bassolé. Le Burkina Faso, malheureusement, a fini 2016 tout comme il l'a commencé. En effet, des terroristes s'en sont pris aux positions du groupement antiterroriste burkinabé basé à Nassumbu. Le bilan fait état de 12 morts côté burkinabé. L'année 2016 aura été éprouvante à tout point de vue, mais dans cette épreuve dure, VOA Afrique a eu l'insigne honneur d'avoir le prix au JAP de la paix pour son traitement équilibré de l'information. Une fierté légitime qui est partagée avec toute l'équipe à la maison mère à Washington et avec l'ensemble des nombreux auditeurs de VOA Afrique. Sur ce, je dis bonne et heureuse année 2017 à tous. Que la paix et l'amour soient notre quotidien. Zoumana Wounougou, Ouagadougou, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Lionel Gaïma et Nachouane Kalé, respectivement à la mise en onde et à la console. Présentation chez Rubin Gaby Dorsil et Anastasie Tudiech.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook et on reste ensemble également sur voaafrique.com, notre site internet où vous trouverez les informations et les vidéos 24 heures sur 24.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. VOA